Merci Nicolas Hens pour ces informations. On vous retrouve à 11h, mais d'ici là, à 10h15, Un jour un évêque avec Camille Meyer. Et puis à 10h30, ce sera Maxime Dahl pour Ecclesia Magazine. Mais tout de suite, c'est Rencontre. Marie-Ange Montesquieu reçoit ce matin Marie-Pierre Dillon-Seger, maître de Feng Shui, auteur de Oser s'accomplir, 12 clés pour être soi aux éditions MAMA.
Bonjour à tous, il faut oser ou se résigner à tout. C'est ce qu'écrivait le grand historien de la Rome antique, Tite Livesi. Oser était la clé de tout accomplissement, aussi humain soit-il. C'est la certitude d'une femme, écrivaine et praticienne des arts chinois consacrée aux forces spatiales et temporelles, maître de Feng Shui, Marie-Pierre Dillon-Seger, qui a osé pondre une sorte de bible des symptômes humains et leurs antidotes pour trouver la voie de l'accomplissement personnel, voire la paix intérieure. Joli programme que nous propose donc son dernier livre, Oser s'accomplir, aux éditions MAMA. Bonjour Marie-Pierre Dillon-Seger.
Bonjour.
Alors, je me suis entraînée pour dire votre nom de famille, pardonnez-moi.
Mais en tout cas, vous y avez réussi.
Bon, c'est déjà un bon début. Alors, oser s'accomplir, il ne suffit pas de le vouloir, j'imagine.
Non, si. C'est justement pas une question de volonté ni de force. C'est une question de présence à soi.
C'est-à-dire, parce que c'est des mots rapidement dits, ça. Hein.
Oui, tout à fait. Alors, je vais poser le fait que nous sommes... Donc vous me voyez, hein, je ne suis pas issue de la culture chinoise.
Pas du tout.
Je suis bien née en France, en fait, en Alsace. Je suis issue néanmoins d'une culture qui considère que le succès, les avancées sont dues aux compétences, bien évidemment, mais aussi à notre volonté, à notre force, à un travail. Or, dans la pensée classique chinoise, le succès de tout projet et d'un individu est le résultat d'une équation un petit peu différente. Il y a bien sûr la personne et ses compétences, mais aussi sa capacité à identifier des lieux, des espaces, des environnements et des moments qui sont en synergie avec ce que la personne cherche à faire.
C'est-à-dire, effectivement, alors allons-y à l'introduction, page 9, pour que les auditeurs comprennent un peu et se situent dans votre pensée, dans votre façon, en tout cas, de concevoir la vie, l'existence humaine. Si un bon timing, dites-vous, et un environnement porteur peuvent permettre de gagner une bataille, de compenser un déséquilibre et de cacher une faiblesse, les conséquences d'actes réussis, mais en décalage avec la conscience de ce qui nous fait du bien, sont énormes, écrivez-vous. Que promet une promotion que l'on ne souhaite pas vraiment? Une fête de mariage réussie si le cœur de l'un des conjoints est ailleurs? Ou bien encore l'achat d'une maison de rêve dans un pays que l'on n'aime pas? Ça, c'est ce qu'on a tous les jours, c'est ce qu'on vit
absolument,
au fond tous.
Absolument. Et ce que moi j'ai tous les jours dans l'intimité de mes consultations, c'est la souffrance qui en découle. Quand nous sommes amenés à privilégier des décisions qui peuvent paraître raisonnables, mais qui sont parfois juste en léger décalage, parfois beaucoup plus qu'en léger décalage, avec la conscience de ce que nous sommes. Alors, si j'explique ça, la conscience de ce qui nourrit notre vitalité. Hein? Donc, on nous apprend à être raisonnable. On nous apprend... Alors, moi, ne croyez pas que mon propos est d'être déraisonnable. Mais il y a une mise en... un surlignement que je pense un petit peu trop poussé à l'heure actuelle sur ce que l'école, la famille, les codes sociaux recommandent au détriment de tout simplement au départ d'une et le long de la vie d'une prise de pouls métaphorique d'une prise de pouls de ce qui nous énergise
et nous nourrit.
Nous nourrit, absolument. Hein. Et souvent, quand je vais poser, je pense à par exemple quelqu'un qui vit en ville et qui sait à quel point cette personne, elle est bien quand elle est l'été dans sa campagne. Hein. Donc, on va me dire.
Typiquement parisien, ça.
Oui, mais parce que là, je suis quand même sur Paris, hein, ou l'inverse. Hein, mais puis les situations sont multiples. Mais donc, je vais poser l'intérêt qu'il y a, non pas à déménager du jour au lendemain, non pas à remettre en cause tout ce qui a été construit pendant toutes ces années, mais le principe de petites choses qui, au départ, vont nous reconnecter avec nos forces vives.
Parce que quand même, alors, je suis désolée de réatterrir sur le plancher des
vaches.
Non,
mais ne soyez pas désolée, mais... c'est important, c'est aussi pour ça que vous êtes là.
Toute vie est incomplète, c'est-à-dire que moi, par exemple, si j'ai envie de vivre à la campagne, mais qu'en même temps, j'ai un métier passionnant à Paris, compliqué. Okay.
Alors, donc, tout va dépendre du taux de souffrance dans lequel vous vous trouvez. C'est-à-dire que je ne dis pas que les compromis ne sont pas intéressants, mais ce que je rencontre, moi, c'est les effets sur le long terme de compromis qui sont qui ne sont pas à l'avantage de la personne.
C'est-à-dire qu'on
finit par tomber malade.
Oui.
Être dans le déni, tomber malade, parfois se renfermer sur soi, on finit en perte de vitalité. Et la perte de vitalité, ça peut être une dépression passagère, ça peut être des symptômes à répétition qu'on n'écoute pas. Hein. Alors, justement, c'est presque à vous de me poser la question, mais on va tous se dire, mais bon, ok, je suis dans une situation coincée, comment est-ce que je sors de la situation difficile? Et là où je me cale dans une pensée taoïste, minimaliste, et ça peut paraître presque trop simple, mais je sais que c'est efficace sur le long terme, c'est d'identifier les sources de lumière, les lieux, les personnes, les activités qui nous mettent en connexion avec nous-mêmes, qui nous donnent de la force, en éliminant tous les jours peut-être que simplement 5 minutes de présence à quelque chose qui ne nous nourrit pas. Hein. Et comme nous sommes dans une culture à l'heure actuelle où moi je vis aux États-Unis, donc des fois c'est occidental. Hein, ça. Oui. Enfin à la limite c'est même comme ça en Chine à l'heure actuelle, hein, parce qu'un certain nombre de ces conseils ont été perdus, ont été nivelés par la culture moderne. Donc on se retrouve dans une situation où nous sommes habitués à tout pouvoir faire partout tout le temps. Okay. Et puis on n'y arrive pas, donc il y a frustration, et on se remet en cause, on se culpabilise, ou alors après on va retomber dans l'extrême, j'ai jamais pu, j'y suis pas arrivée, j'y arriverai jamais. Donc il y a à la fois, il y a deux postures extrêmes qui sont défavorables à notre longévité.
C'est-à-dire qu'il y a aussi une différenciation à faire entre une espèce de... Vous évoquiez le « on peut tout faire tout le temps
» Ou « je peux rien faire jamais ».
Voilà. Faut différencier peut-être le bien-être au sens du petit plaisir qu'on ne veut pas voir s'éloigner, en tout cas les plaisirs de la vie qu'on ne veut pas voir s'éloigner trop en nombre et trop vite, et qu'on ne veut pas perdre d'un coup, et puis en même temps, le bien-être au sens vraiment philosophique du terme.
C'est très juste ce que vous dites, sauf que je pense qu'il n'y a pas, je pose le fait qu'il n'y a pas de petit plaisir. Chaque petit plaisir est un plaisir. Sur le chemin, sur le chemin d'une reconnexion à soi. Avec mon objectif, il est, on pourrait dire la longévité, mais on va faire plus simple, d'arriver à ce que la personne soit en phase avec elle-même et en maximum de force. Donc, au début, d'abord, ça n'a aucun intérêt de faire des grands pas ou de s'autoriser tout d'un coup alors qu'on a besoin d'aller, on a envie de voir la mer, on ne s'est jamais autorisé la thalassothérapie, ben je vais tout de suite partir un mois en thalasso. Non, ça c'est un grand plaisir, peut-être indigeste. On va peut-être d'abord, ça m'arrive de le conseiller, prendre des bains de pied dans de l'eau chaude avec des super salles de bain. Donc, il n'y a pas de petits pas en avant dès lors qu'on est sur une tracée qui nous rapproche de nos forces. Tout petit pas est un grand pas.
Comment on le sait qu'on est dans le bon chemin?
Super question. Alors moi, j'ai cette image d'une boussole interne. C'est-à-dire que je fais confiance à la personne à partir du moment où elle a compris que le bon chemin, ce n'est pas forcément celui d'une réussite à tout craint qui vous laisse exempte sur votre canapé le week-end.
Ouais. Hein,
mais que le bon chemin, c'est une... Au départ, ça peut être une contre-allée. Ou simplement, on est loin du but. C'est que le bon chemin, c'est de s'engager en conscience chaque fois que c'est possible. Des fois, faut attendre une année, faut attendre des années avant de pouvoir faire. Imaginez, vous êtes un paquebot. Les paquebots, ça bouge pas du jour au lendemain. Mais donc, le bon chemin, c'est ce qui va me permettre de me réveiller avec un petit peu plus d'envie de sauter de mon lit le matin. Par exemple, ou le fait que tout d'un coup, je me rends compte que, tiens, Il y a un rayon de soleil qui vient de tomber sur un vieux lierre. Enfin bon, des choses tout simples.
Et comment se connecter dans ces cas-là? Parce que parfois, des personnes se plaignent d'ailleurs de ne pas se connecter. Mais ou on le
voit, problème,
ça.
C'est qu'on est connecté à notre douleur et à notre habitude de tolérer la douleur. Donc, il y a un travail. Des fois, c'est effectivement, moi, je peux être très ferme dans les consultations, hein, mais ferme et quand même très bienveillante, très accompagnante. Mais ce qui se passe, c'est... Je pense à trop de choses en même temps. Je vais être exactement précise. Parce que votre question, c'était comment on le sait,
hein.
Je fais confiance. Et comment on se connecte? Mais la première question, c'est la personne sait, à partir du moment où elle sait qu'il y a une autre voie que celle de la souffrance.
Une autre voie que celle de la souffrance.
C'est une autre voie que c'est une illusion de l'esprit de penser qu'à jamais on restera connecté à un lieu qu'on n'aime pas ou dans un boulot qu'on n'aime pas. Il y a une voie alternative.
Il y a toujours une deuxième.
Il va falloir se mettre en mouvement et compter sur le temps. Donc, quand on est dans une pensée où tout de suite, maintenant, mon propos est pénible.
Forcément.
Mais les grandes choses se construisent par des petits pas.
Si la perfection n'était pas chimérique, elle n'aurait pas tant de succès, disait Bonaparte. Ça, la recherche de la perfection, c'est vrai, je le prends, n'a pas beaucoup de temps.
Mais il y a un chapitre là-dessus.
La perfection est vraiment une sorte de même de fléau, peut-on dire, Marie-France.
Alors, dans la... Marie-Pierre
hein, Dylan,
dans la... Je suis en France, donc c'est génial qu'on m'appelle Marie-France. Donc, la perfection est un leurre. Mais elle est aussi une force de motivation majeure. Sauf que d'aller vers la perfection, mais de se rendre compte que on est beaucoup mieux quand on arrive à apprendre à tolérer un petit peu d'imperfection, que ce soit dans son physique, dans son couple, dans son travail, et d'apprécier non pas ce qui manque encore, mais ce qu'on a déjà.
Parce que vous dites que ça alimente l'autocritique, hein.
La perfection, puis l'autocritique, elle alimente de la souffrance. Alors, il y a des tas de choses. Au lieu de se concentrer sur tout ce qu'on ne sait pas faire, de ce qu'on ne fera jamais ou de ce qu'on ne sait pas encore faire, concentrez-nous sur tout ce qu'on fait déjà. Moi, j'ai fait faire des listes à des personnes de tout ce que vous savez faire. Alors, elles me reviennent avec deux trucs. Je dis, mais vous ne savez pas vous laver les dents? C'est une chose que vous savez faire. Vous savez faire de la bicyclette. Je taquine, là, mais
apprendre
je suis quand même
sérieuse. Alors, il reste très peu de temps. Si vous étiez Dieu, vous feriez quoi, Marie-Pierre, Dylan Segarra?
Je ferais confiance. 4 secondes. Je ferais confiance à cette humanité qui est en souffrance et qui se pense coincée dans une impasse, alors que nous avons les moyens de nous repositionner.
Ben merci à vous. Osez s'accomplir, une sorte de Bible, 12 clés pour être soi rien que ça. Avec vous, Marie-Pierre, Dylan Segarra. Merci.
Ben merci à vous. Merci aux auditeurs.
Et merci à Marie-Ange de Montesquieu qui recevait Marie-Pierre, Dylan Segarra ce matin.